Sur les dons spirituels. Nous avions vu la dernière fois, dans une sorte d'introduction, quel était le but des dons spirituels, quelle était leur nature. Nous avons vu qu'ils étaient donc des dons de la grâce de Dieu, comme le dit le mot charisme, le mot charis grec qui signifie don de grâce, et que ils sont des manifestations qui sont entièrement surnaturelles. Nous avions beaucoup insisté sur ce point-là. Et que parce qu'ils sont justement entièrement surnaturels, ils sont la conséquence du baptême dans le Saint-Esprit, qu'il n'est donc pas possible de les exercer sans au préalable avoir été baptisé dans l'Esprit, et donc a fortiori sans être né de nouveau. Maintenant, à côté du don, il y a, nous dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, ce que l'apôtre Paul appelle la manifestation du don. Il y a le don et il y a la manifestation du don. Le don, sauf le don des langues, les autres dons spirituels ne sont pas à la disposition de celui qui les a reçus, mais ils s'exercent quand l'Esprit le veut, et comme l'Esprit le veut. Et c'est pourquoi il y a ici un aspect qu'il faut souligner très fort, c'est que les dons spirituels ne sont pas directement en relation, je veux dire, sont une réalité différente de la parole de Dieu. Disons les choses comme ça. Et bien sûr, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui est l'unique et ultime référence. C'est pourquoi les dons spirituels doivent être jugés à la lumière de la parole de Dieu. Et quand nous disons « juger », c'est une traduction possible du mot grec que Paul emploie « diakriseis », qui signifie juger, évaluer, peser, en quelque sorte discerner quelle est la valeur, quelle est l'origine des dons spirituels, sont-ils ou ne sont-ils pas de Dieu. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect des choses quand nous étudierons justement le don de discernement des esprits. Les dons spirituels ont ceci de particulier, c'est que ils sont un don de l'Esprit, donc l'Esprit du Seigneur intervient par un canal humain, mais ce canal humain n'est absolument pas violenté. Ça, c'est le propre, c'est la marque, c'est la signature de l'Esprit de Dieu. La personnalité de celui qui est utilisé, de celui qui reçoit le don, est entière et totale. Et c'est en cela que les dons du Saint-Esprit, le surnaturel de Dieu, diffèrent du surnaturel diabolique. Le surnaturel diabolique se caractérise par le fait que celui qui est le canal de l'action de l'esprit mauvais devient un médium. Ça veut dire perd conscience, il est possédé, il est dominé par une force qui le contrôle de l'extérieur, lui-même ne se contrôle plus, et par conséquent, il n'est effectivement qu'un médium, qu'un vulgaire canal, un objet. Rien de tel avec l'Esprit de Dieu. Donald G. disait de l'Esprit de Dieu, c'est un gentleman. Et le propre des dons spirituels, c'est qu'ils sont la collaboration de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de l'homme. Rien ne se fait sans l'Esprit de Dieu, mais rien ne se fait non plus sans la collaboration de l'homme. Rien ne se fait non plus sans la volonté de l'homme. L'homme doit dire oui à l'Esprit de Dieu. L'homme doit accepter cette collaboration avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque des dons spirituels sont manifestés, ils le sont par un homme et ils le sont au travers de la personnalité de cet homme. Jésus, par exemple, dit une chose intéressante dans un tout autre domaine, mais on peut l'appliquer ici aussi aux dons spirituels. Quand il, dans la prière sacerdotale, il dit à son Père, « Je te prie non seulement pour eux, mais également pour ceux qui croiront en toi par leur parole. » Et cette parole est importante. Car nous savons, nous, que cette parole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu révélée dans la Bible. Or, cette parole qui est parole de Dieu, Jésus dit, c'est aussi leur parole. C'est les deux. C'est la parole de Dieu, mais c'est aussi la parole de Matthieu. C'est aussi la parole de Paul et c'est aussi la parole de Pierre. Et ceci implique une conséquence. C'est que celui qui manifeste les dons spirituels est responsable de l'expression de ses dons. Ce que Paul exprime au travers de ce verset où il dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » Ça, c'est vrai uniquement dans le surnaturel de Dieu. Ça n'est pas vrai dans le surnaturel diabolique. Et c'est en cela qu'on reconnaît le surnaturel de Dieu et le surnaturel diabolique. Et l'on voit parfois un certain nombre de gens qui déraillent en ce qui concerne les dons spirituels, soit dans le fond, soit dans la forme, et qui, une fois repris, disent « Mais je n'ai pas pu faire autrement, l'Esprit du Seigneur m'a poussé. » Et à cela, on peut répondre à ce personnage « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Vous êtes responsable de la manifestation de votre don spirituel. » Vous êtes responsable de son expression. Et il n'est pas question de dire « c'est l'Esprit qui m'a poussé », même si de fait il y a une pression de l'Esprit, mais c'est la parole de Dieu, mais avant d'être la parole de Dieu, c'est ta parole. Autrement, ce n'est plus la parole de Dieu. Nous sommes ici dans le domaine des médiums, nous sommes dans le domaine de, comment dirais-je, l'inspiration mécanique, l'écriture automatique, ou des choses semblables, ou la transmédiatique, et là nous ne sommes plus du tout dans le domaine des choses de Dieu. Deuxième marque du surnaturel de Dieu, le surnaturel de Dieu opère en dehors de toute technique. Ça, on a déjà eu l'occasion de le dire, et il faut le redire parce que c'est essentiel. D'abord, parce que Dieu est souverain. L'Esprit de Dieu est souverain. Il est souverain, ça veut dire qu'il est libre. Il donne comme il veut, quand il veut. Et la manifestation est donnée par l'Esprit comme il le veut. Et par conséquent, il n'y a pas de technique pour manifester les dons spirituels. Ce n'est pas parce qu'on aura jeûné 3 jours qu'on aura récité telle et telle formule que le démon partira. Par exemple, l'exorcisme catholique fait appel à des techniques de ce type. Il y a de l'eau bénite à balancer sur le malade, il y a des formules à prononcer, il y a... etc. Comme c'était d'ailleurs à l'époque de Jésus, on voit les exorcistes juifs ambulants, les 7 fils de Séva, dont il est question dans le chapitre 19 du livre des Actes, qui avaient ajouté à leur répertoire ils avaient une autre formule, une autre technique. Je vous adjure, au nom de Jésus, que Paul prêche. Vous connaissez quel avait été le résultat. Il n'y a pas de technique. Le Seigneur n'est pas lié en aucune manière à une technique. Mais nous avons réellement affaire à l'irruption du surnaturel de Dieu dans la vie de son peuple, dans la vie de l'Église, dans la vie de son enfant. À partir du moment où nous ramenons les choses de Dieu à une technique, alors nous sortons du plan de Dieu. Nous sommes dans le domaine du magique. Et le surnaturel des dons spirituels n'a rien à voir avec le magique. Ça, il faut le souligner très fort. Pas même les formes. Et ça, il faut faire très attention. Car la tentation du magique est dans le cœur de l'homme. Et nous voyons ça. Donc, j'ai cité par exemple l'exorcisme dans le catholicisme. Mais il est évident que dans les milieux catholiques dits de renouveau, bon, on sent ce glissement de plus en plus vers le magique, vers la technique. Mais on trouve ça aussi dans certains milieux pentecôtistes. Chauffer la salle, etc. Il y a toute une technique qui se développe. Mais on a le résultat qui est à l'avenant. C'est-à-dire qu'il se produit des manifestations qui sont des manifestations psychiques, pour le moins. Et si on pousse trop, ça peut aller plus loin. Par exemple, certains parfois disent, mais attention, et vous savez, c'est la grande attaque actuellement dans certains milieux évangéliques anti-charismatiques, une grande offensive, vous le savez, contre tout ce qui est charismatique, de la part de gens qui ne sont pas allés bien loin d'ailleurs, eh bien, qui disent, oui, mais attention, le diable aussi fait parler en langue, il y a des parlers en langue diaboliques, possible, j'en ai jamais entendu de ma vie, mais peut-être que de fait, dans certains pays d'Afrique ou autres endroits, ou même dans nos pays, éventuellement, il peut y avoir quelques parlers en langue qui sont diaboliques. Mais, justement, la grande différence entre le parler en langue diabolique et le parler en langue de Dieu, c'est que, encore une fois, celui qui parle en langue par l'Esprit de Dieu est maître de son parler en langue, parfaitement maître. Il s'arrête quand il veut. S'il n'a pas envie de parler en langue, il ne parlera pas en langue. Le parler en langue diabolique, il est contraint. C'est ça la différence. Et alors, on entend parfois dire des gens, oui, mais quand j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, je ne pouvais plus faire autrement que de parler en langue, etc. La pression de l'esprit peut être forte, mais il n'en demeure pas moins que celui qui a véritablement reçu ce don, eh bien, peut effectivement se contrôler. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça, c'est très clair. Même si parfois la pression de l'esprit peut être très forte. C'est vrai, parfois, comme dit l'apôtre Paul, plutôt comme le disait le Seigneur à l'apôtre Paul, il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Parfois, l'onction de l'esprit est comme un aiguillon qui exerce une pression, mais ce n'est jamais une contrainte. Jamais. Ça, faut le dire. Il y a donc une grande liberté. D'ailleurs, Paul le dit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu respecte toujours la liberté de l'homme. Toujours. Seulement, justement, ceci implique une autre conséquence, c'est que les manifestations des dons du Saint-Esprit doivent se faire avec bienséance et avec ordre. C'est la liberté, mais ce n'est pas l'anarchie. Et il est clair que les trois chapitres 12, 13 et 14, la première épître aux Corinthiens, qui sont la base de la théologie des dons spirituels, a d'abord pour but de mettre de l'ordre là où il y avait du désordre. Alors bien sûr, dans les milieux charismatiques, on dit, mais puisque Paul éprouve le besoin de mettre de l'ordre, c'est donc que ça existe et que c'est normatif. Tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas oublier que le but de Paul, c'est d'abord de mettre de l'ordre dans cette cacophonie, dans cette anarchie qui caractérisait l'Église de Corinthe. Et ceci doit être souligné pour que précisément on ne retombe pas dans l'ornière qui était celle de l'église de Corinthe. Tout doit se faire avec bienséance et avec ordre. C'est pourquoi on peut être absolument rempli du Saint-Esprit sans marcher sur la tête, sans faire le triple saut périlleux, où j'en passe et des meilleurs. Et l'apôtre Paul montre que ça doit se faire notamment dans les assemblées de l'Église, là où il y a des personnes qui pourraient être, choquées de telle manière que précisément il n'y ait rien qui soit inconvenant. Il n'y ait rien qui soit choquant. Il n'y ait rien qui puisse être contraire à, je dirais, la bienséance et à l'ordre. Maintenant, les dons spirituels sont aussi la base du ministère chrétien. Et à ce titre-là, ils sont essentiels. Pendant des siècles, l'Église s'est passée des dons spirituels parce qu'elle ne les connaissait plus. Et il faut quand même reconnaître que sur le plan des ministères, ou du ministère en général, ça n'a pas été extrêmement brillant. Et je pense qu'une des grandes lacunes de l'Église tout au long de l'histoire, c'est justement la question des ministères. Or, il n'y avait pas de vision des ministères parce qu'il n'y avait pas de vision des dons spirituels. Nous verrons dans une étude ultérieure la relation qu'il y a entre charisme et ministère. Maintenant, les deux choses ne sont pas interchangeables. Il est clair, notamment au travers de chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, qu'en ce qui concerne les charismes, chaque enfant de Dieu né nouveau et baptisé dans le Saint-Esprit peut les exercer. Doit les rechercher et les exercer. Ils sont accessibles à tous, même aux plus petits, même aux plus humbles, des membres de l'Église. Et dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul dit que il s'agit là de tendre vers le but, c'est-à-dire l'œuvre du ministère. À ce titre-là, chaque enfant de Dieu est appelé à prendre part à l'œuvre du ministère. Et entre parenthèses, cet apologue bien connu de Paul sur les membres du corps qui sont complémentaires les uns des autres peut évidemment être compris, comme on l'a souvent fait, comme, disons, la mise en commun des talents naturels que les uns et les autres ont reçus, de la personnalité des uns et des autres, c'est pas faux. Mais dans la vision spécifique et celle de Paul, c'est pas ça qu'il a quand même dans l'esprit. C'est la mise en commun des dons spirituels reçus surnaturellement. Voilà ce qui fait le ministère, tel que Paul le comprend dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Ce ne sont pas les dons naturels. Comme disions la dernière fois, c'est évident que ces dons naturels-là ne sont pas négligeables obligatoirement. Et qu'il est normal, qu'il est légitime que quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur, se consacre au Seigneur, il lui consacre les talents naturels qui sont les siens. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour fonder l'œuvre du ministère. Il faut plus, il faut la dimension surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est pas toujours facile à garder, cette vision-là. On a très vite tendance à redescendre au niveau humain, au niveau justement des talents naturels. Et c'est souvent le problème de la deuxième génération du réveil qui garde la vision mais qui la fait redescendre au niveau humain. En appliquant cette vision de l'Église aux talents naturels non négligeables, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais qui ne sont pas l'essentiel. Ils ne sont pas l'essentiel. Le but, nous dit toujours l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, c'est l'édification du corps et la gloire de Dieu. Et là, précisément, dans ce chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul fait la différence entre les dons et les ministères. Car si tout enfant de Dieu, baptisé de l'Esprit, et donc bien évidemment converti d'abord, a accès à l'œuvre du ministère par l'intermédiaire des dons spirituels, tout enfant de Dieu n'a pas un ministère don au sens d'Éphésiens 4. Ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. Et c'est pourquoi il faut différencier les dons du Saint-Esprit qui, comme le nom l'indique, proviennent du Saint-Esprit, sont des dons du Saint-Esprit à des individus dans l'Église pour que ces individus soient une bénédiction au corps tout entier, pour que ces individus apporte au peuple tout entier, au corps tout entier, la bénédiction de Dieu, qu'ils soient les canaux de cette bénédiction-là, source de bénédiction. D'ailleurs, Jésus disait ça, vous savez, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, il parlait de l'Esprit. Par conséquent, c'est par l'Esprit que nous pouvons être en bénédiction à nos frères. Et puis il y a les ministères dons, qui sont des dons du Seigneur, du Seigneur Jésus, et non pas du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose. Et les ministères dons ne sont pas des réalités spirituelles qui sont données au peuple de Dieu par l'intermédiaire d'individus, mais ce sont des individus qui ont été mis à part par Dieu, équipés surnaturellement, et qui sont donnés au peuple de Dieu. Et là, il y a une différence fondamentale qu'il faut faire. Sinon, on ne comprend pas ce qu'est le ministère du Saint-Esprit. Il y a une différence fondamentale pour la structure de l'Église. Il y a une différence fondamentale pour les ministères, pour la colonne vertébrale de l'Église. Ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. Je cite simplement cet aspect pour l'heure. Nous avons vu que ces dons spirituels donc étaient donnés à des individus et non pas à l'Église, contrairement à la doctrine de Duplessis, nous avons parlé la dernière fois, pour lequel ces dons sont donnés à l'Église par l'intermédiaire d'individus. Si par exemple quelqu'un vient et prie pour moi pour que je sois guéri, je suis guéri d'une telle maladie, c'est moi qui reçois le don de guérison. Parce que puisque je suis guéri, c'est moi qui ai reçu le don de guérison. Ça, c'est une manière de récupérer, si vous voulez, une certaine théologie catholique, pas choquer un certain nombre de catholiques, n'est-ce pas ? En fait, la Bible ne nous dit pas cela du tout, n'est-ce pas ? L'Esprit du Seigneur, donne des dons à des individus. À l'un est donné une parole de sagesse pour qu'il manifeste la parole de sagesse. À l'autre est donné une parole de connaissance. Et il va la manifester. La manifestation du don est donnée pour l'utilité commune. À chacun, une manifestation du don est donnée pour l'utilité commune. Donc c'est très clair. N'est-ce pas ? Le but, donc, c'est l'édification de l'Église. Donc apporter une bénédiction au peuple de Dieu. Et ça, c'est très important. Car le don spirituel n'a jamais eu pour but de glorifier l'homme, de glorifier celui qu'il manifeste. Et je crois qu'il est très important de bien enseigner ceux que l'on exhorte à rechercher les dons spirituels pour qu'ils ne se méprennent pas. Et que parfois on assiste à certains excès dans ce domaine, en sorte qu'un certain nombre de gens cherche à manifester des dons spirituels pour se mettre en avant, pour, quelque sorte, avoir une autorité, une influence qu'il n'aurait pas autrement. Il est évident que de telles motivations ne pourront aboutir très vite qu'à des déviations graves dans le domaine des dons spirituels. Et l'on assistera alors à ce que l'on appelle parfois un petit peu familièrement des prophéties téléguidées, c'est-à-dire que quelqu'un règle ses comptes avec un autre par l'intermédiaire de la prophétie, c'est évident que c'est absolument abominable, des choses comme ça. Alors, le but, édifier l'Église. Et quelqu'un qui est responsable d'une réunion où sont manifestés des dons spirituels doit être particulièrement vigilant dans ce domaine-là. Et s'il sent que des motifs qui sont sous-jacents à une prophétie ne sont pas purs, alors il devrait intervenir, bien sûr, pour que cette prophétie-là, pour que celui qui prophétise de cette manière-là se taise. Donc ici, la gloire de Dieu, le but, la gloire de Dieu. Deuxième point, les dons spirituels sont des dons de grâce, comme nous l'avons dit, donc n'ont rien à voir avec le mérite. Et si nous disons à qui les dons spirituels sont-ils donnés, il faut aussi insister sur le fait qu'ils ne sont pas donnés à des gens parce qu'ils le méritent. Et pas plus que le salut n'est donné sur la base du mérite, pas plus que le baptême du Saint-Esprit n'est donné sur la base du mérite, pas plus les dons spirituels ne sont donnés sur la base du mérite, mais du don gratuit de Dieu, de la grâce de Dieu. Les dons spirituels sont un témoignage de l'amour de Dieu à son Église. C'est parce que le Seigneur aime son peuple qu'il lui fait la grâce de venir au milieu de lui et ainsi de l'édifier, de le conduire, de le consoler, de l'exhorter, de le reprendre éventuellement. C'est une manifestation de l'amour du Seigneur. Et par conséquent, c'est conscient de l'amour de Dieu que le peuple de Dieu s'attend à la manifestation des dons spirituels. Alors précisément, après avoir dit tout cela, se pose la question, mais comment recevoir les dons spirituels? Qui peut recevoir d'abord? Nous l'avons vu, tout enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit. Et il devrait être logique, normal, que immédiatement après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, on se mette à rechercher les dons spirituels. C'est l'inverse qui ne l'est pas. Maintenant, comment recevoir? Alors, il faut ici souligner qu'il n'y a pas une attitude passive devant Dieu. Et la Bible nous dit trois choses. Toujours dans l'Épître aux Corinthiens, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 12, 13 et 14. Premièrement, prier. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc, les dons spirituels sont donnés en réponse à la prière persévérante et fervente. Priez pour recevoir. Deuxièmement, chapitre 14, verset 1, l'apôtre Paul dit « Aspirez aux dons spirituels ». On traduit parfois par « Désirez avec ardeur les dons spirituels ». Et là, le mot grec est extrêmement fort. Il implique une détermination farouche, un désir ardent, et qui est tout autre chose qu'une vague velléité, une vague aspiration. Oh, tiens, ce serait pas mal si je pouvais de temps en temps avoir un petit don spirituel. Et hélas, souvent, pour bien des enfants de Dieu, ça ne dépasse pas ce stade. Ça ne dépasse pas ce stade parce que certains se diront aussi « je ne suis pas digne ». Et là, nous retrouvons ce que nous disions tout à l'heure sur le mérite. Les dons spirituels ne sont pas donnés sur la base du mérite, mais sur la base de la grâce. Et puis, troisième point, la foi, bien sûr. C'est évident que tout ce que nous recevons de Dieu est sur la base de la foi. Nous recevons le salut, le pardon de nos péchés, quand nous croyons. Nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit quand nous croyons à la promesse de Dieu. La promesse est pour vous. Amen, Seigneur, je crois, je reçois. Je reçois les dons spirituels quand je crois que que le Seigneur me les donne. C'est sur la base de la foi. Et puis il y a un quatrième point. Il nous faut bien comprendre ici la place du chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Vous savez, dans ces trois chapitres charismatiques, en quelque sorte, la première épître aux Corinthiens, il y a d'abord le chapitre 12, où l'apôtre utilise cette apologie du corps, hein, dit les membres dans le corps sont complémentaires les uns des autres. Puis il passe au chapitre 13, où il parle de l'amour, et puis il revient au chapitre 14, où il traite de la prophétie et du don des langues. Et on a l'impression que le chapitre 13 intervient là un petit peu pour casser la logique du raisonnement de Paul. On se demande un petit peu qu'est-ce qu'il fait là, ce chapitre 13. Pourquoi il est intercalé entre ces deux chapitres qui traitent des dons spirituels? Et vous savez que les anticharismatiques, évangéliques ou non, ont souvent utilisé ce chapitre 13 pour dénigrer la valeur des dons spirituels. Paul déclare en effet « Aspirez aux dons spirituels, mais je vais vous montrer une voie plus excellente. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et continue comme ça. Alors, les anticharismatiques, vous voyez, il y a une voie plus excellente que les dons spirituels. C'est l'amour. Donc, à partir du moment où nous avons le fruit de l'esprit qui est l'amour, nous n'avons plus besoin des dons spirituels. Est-ce que nous, anticharismatiques, ce que nous recherchons, c'est l'amour, c'est le fruit de l'esprit? Et partant de là, nous nous permettons de négliger les dons spirituels. Je crois qu'il faut comprendre ce que Paul dit. C'est vrai que le fruit de l'esprit, que l'amour et toutes ses conséquences est plus important que les dons du Saint-Esprit, c'est certain. Paul le dit dans ce texte, il dit « l'amour ne périt jamais, quant aux prophéties elles prendront fin, quant aux langues elles cesseront. » Ah, merveilleux, disent les anticharismatiques. Tout ça, ça cessera. Nous sommes d'accord. Mais quand? Le texte répond. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce que c'est ce qui est parfait? L'amour? Non. Il faut lire le texte. Autrefois, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, et quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître de moi ce qu'était de l'enfant. Ah oui, vous voyez, l'Église a commencé dans les balbutiements de l'enfant, le don des langues, tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des adultes, l'Église est devenue adulte, elle est pleine d'amour. Pensez, l'Inquisition, les croisades et tout ça, pleine d'amour. Autrefois, aujourd'hui plutôt, dit l'apôtre, nous voyons comme dans un miroir. Mais un jour, je connaîtrai comme j'ai été connu, face à face. Alors là, c'est clair. Un miroir, vous savez, là aussi, il y a de ces réalités qui sont piégées. Nous, quand nous regardons dans un miroir, c'est comme si nous voyions la réalité, n'est-ce pas ? Simplement qu'il y a une inversion au point de vue de la symétrie. Autrement, c'est exactement la même chose. Seulement, à l'époque de Paul, les miroirs étaient moins sophistiqués qu'ils ne le sont aujourd'hui. On a retrouvé des miroirs dans des fouilles archéologiques. Qu'est-ce que c'est un miroir? C'est une plaque de métal, de cuivre, d'argent, si on est très riche, qui est grossièrement polie. Ça vous donne une image, mais une image très vague. Et c'est ce que Paul dit, nous voyons aujourd'hui, ça veut dire quand aujourd'hui? Mais dans l'économie présente, sur la terre. Nous voyons au travers d'un miroir, ça veut dire nous voyons d'une manière diffuse, peu claire. Et nous voyons comment ? Quel est ce miroir dans lequel nous voyons ? Ben, ce sont les dons spirituels, justement. La prophétie, les langues, la connaissance. Mais un jour, nous connaîtrons face à face comme nous avons été connus. Il n'y aura plus cet intermédiaire. Et quand ce sera ça ? Mais c'est très clair. Quand nous serons dans la gloire, quand nous serons dans la présence du Seigneur, alors là, les langues cesseront. Alors là, les prophéties disparaîtront. Puis, un troisième élément que Paul évoque là, sur lequel on ne s'arrête jamais. La connaissance disparaîtra en même temps aussi. Alors moi, je te pose une question à ces gens-là. Je dis, mais vous dites, les langues ont cessé, la prophétie a disparu, mais pouvez-vous m'expliquer pourquoi la connaissance n'a pas disparu ? Vous avez de la connaissance, n'est-ce pas ? Heureusement pour vous. Et pourquoi la connaissance n'a-t-elle pas disparu alors que la prophétie et les langues auraient disparu ? C'est pas logique. La connaissance disparaîtra quand ? Eh bien, quand nous connaîtrons comme nous avons été connus. Comment vient cette connaissance pour l'heure ? Par la parole et par l'esprit. Par la Bible et par l'esprit. Et quand nous serons à la présence du Seigneur, nous n'aurons plus besoin de la Bible. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Nous connaissons aujourd'hui une manière partielle. Et si nous avons encore aujourd'hui besoin de connaissances, si nous avons besoin de la Bible pour avoir une connaissance de Dieu partielle, alors nous avons aussi besoin de prophétie, nous avons aussi besoin de langue pour la même raison. Alors l'amour dans tout ça, l'amour ne périt jamais. Alors vous savez, il reste ces trois choses, dit l'apôtre, la foi, l'espérance et l'amour. Bien sûr. Donc l'amour est plus grand que tout le reste, oui, absolument. Seulement, est-ce que Paul veut dire dans ce chapitre 13 que du moment que nous avons de l'amour, nous pouvons nous dispenser des dons spirituels ? Pas du tout, Paul dit une chose tout à fait différente. Et vous savez, là, la division entre chapitres nous joue un mauvais tour dans la parole de Dieu. Parce qu'on s'arrête à la fin du chapitre 12, et puis on commence ensuite à lire le chapitre 13 sans s'occuper de ce que Paul a dit au chapitre 12, alors que c'est un tout. Paul dit « Aspirez aux dons spirituels », fin du chapitre 12. Et début du chapitre 13, il dit « Je vais vous montrer une voie plus excellente ». Une voie plus excellente pour quoi ? Ben pour recevoir les dons spirituels. Il faut être logique quand on lit le contexte. Fin du chapitre 12, Paul explique comment on peut recevoir les dons spirituels. Prier, aspirer, ayez foi. Et puis un quatrième moyen de recevoir les dons spirituels, qui est plus excellente que tous les autres. D'avoir de l'amour. Pourquoi ? Tout à fait logique. Si je vois un frère qui est dans le besoin, qui est malade, par exemple, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de le soigner, bien sûr. Et si je ne peux pas le soigner par des moyens humains ? Ben, je vais dire, Seigneur, intervient pour ce malheureux frère. Donne-moi un don de guérison pour que je puisse venir à son aide. Je ne sais pas si vous connaissez ce grand homme de Dieu qui a mal fini, hélas, mais ce n'est pas entièrement de sa faute. Qui était William Branham, qui était un grand, grand évangéliste, prophète. Il avait à la fois ces deux aspects dans son ministère. Il a voulu jouer au docteur à la fin de sa vie, ça lui a joué des tours. comme quand on n'a pas justement la vision du ministère. Enfin, peu importe, il a quand même été un grand homme de Dieu, malgré ça, malgré ses déviations doctrinales à la fin. Et William Branham, un jour, était arrivé dans un endroit où un terrible accident de voiture venait d'avoir lieu. Je ne sais même pas si ce n'était pas une histoire de collision avec un train, tant que je me souvienne. Et alors qu'il arrivait là, sur la scène de l'accident, quelques minutes après qu'il vienne de se produire, il y avait une petite fille qui était là, écrasée, morte. Absolument, le spectacle était affreux, et la mère qui était là, qui se tordait de douleur devant le cadavre de sa petite fille. Et puis il y avait, c'était sur la frontière de Russie, frontière russo-finlandaise. Il y avait tous les soldats russes qui étaient en train de prendre les mesures de la petite, tout ça, faire le constat, tout ça. Et voilà William Branham qui arrive dans cette situation-là. Il est bouleversé par la douleur de la mère. Et puis soudain, l'Esprit du Seigneur lui parle. Il dit, écartez-vous tout le monde, j'ai prié pour cette petite. Tout le monde se met à rigoler, etc. Écartez-vous, laissez-moi tranquille. Il est fou celui-là. Il s'est mis à genoux, il a imposé les mains à la petite fille. La petite fille s'est mise debout. Elle était morte, ça, pas de problème, elle était morte. Bon, il avait été ému de compassion. Et nous trouvons souvent ça dans les paroles de Jésus. Jésus, devant la souffrance du malade, il est ému de compassion et qu'est-ce qu'il fait? Il guérit. Et là, nous sommes bien loin, justement, de la vaine gloriole, dire « Ah, moi j'ai un don spirituel, regardez comme... » C'est formidable. Je suis un grand bonhomme, n'est-ce pas? Mais là, le problème n'est pas là. Ému de compassion. Je vois un frère qui est dans le désarroi, qui ne sait pas quelle décision prendre dans sa vie. Il est là. Qu'est-ce que je vais faire? Témoigner de la sympathie, mais c'est pas suffisant. Je sens bien que c'est pas suffisant. Quand je dis, Seigneur, donne-moi une parole de sagesse pour ce frère. Ou donne-moi une parole de connaissance qui va répondre à son problème, qui va lui montrer le chemin, qui va le sortir de son désarroi. Et ça, si j'ai cette motivation-là, c'est par amour. Et le Seigneur va répondre. Alors voyez-vous, il n'est pas question ici d'opposer l'amour et les dons spirituels. C'est tout un, c'est tout à fait complémentaire. L'amour va pouvoir s'exprimer d'une manière beaucoup plus profonde s'il a à sa disposition les dons spirituels, justement. Et puis, je pense qu'il y a un autre point aussi qu'il faut souligner très fort. Aspirer aux dons spirituels, ça veut dire rechercher, chercher. Et Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Chercher, ça veut dire persévérer dans l'attente, dans la recherche. Et beaucoup ne reçoivent pas les choses de Dieu parce qu'ils ne cherchent pas. Ils ne cherchent pas suffisamment, avec suffisamment d'ardeur, de persévérance. Vous savez, j'ai souvent employé cette image de ces enfants, ces garnements qui vont sonner aux portes, puis qui, avant qu'on vienne ouvrir, disparaissent rapidement. On peut faire souvent la même chose avec le Seigneur. On prie, on frappe, puis parce qu'on n'a pas reçu dans les 48 heures qui suivent, ou enfin, je caricature un peu, bien sûr, mais pendant un certain temps, parce que ça tarde, eh bien, on va faire autre chose. On se décourage, on dit « Ah, ben, c'est pas pour moi. » Et puis, voilà, c'est fini. On se résigne. Ça, ce n'est pas l'attitude de la foi. Ça, ce n'est pas une attitude spirituelle du tout. L'attitude spirituelle, c'est de chercher jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Alors on dit, ah ben, c'est que le Seigneur ne veut pas me donner. Il ne m'a pas donné dans les 48 heures. Ben, c'est qu'il ne veut pas me donner. Ce n'est pas à peine que j'insiste. Ça, c'est le raisonnement de l'ennemi. C'est le raisonnement du diable, ça. Le Seigneur donnera toujours quelque chose. À l'un, une parole de sagesse. Tu n'auras peut-être pas la parole de sagesse, mais tu auras peut-être le don des miracles. Tu n'auras peut-être pas le don des guérisons. Tu auras peut-être celui d'une parole de connaissance. Alors il est important de persévérer. Butler avait bien des leçons à donner dans ce domaine-là. Je pense notamment à cet épisode qu'il rapporte dans ses livres, je crois, ou du moins dans une des cassettes. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, toujours. Quand le Seigneur, un jour, lui avait dit « Attends-moi jusqu'à ce que je vienne. » Simplement ces mots. Il a entendu cette parole dans son cœur. « Attends-moi jusqu'à ce que je vienne. » Il avait abandonné tout ce qu'il était en train de faire. Il était allé dans son église et s'était placé devant Dieu. Une heure avait passé, deux heures, trois heures, rien. La nuit était venue. Il faisait froid. C'était l'hiver. Il s'était allongé sur un des bancs de l'église. Il s'était enveloppé avec des vieux journaux, je crois, parce qu'il faisait froid. Il a attendu toute la nuit. Toute la nuit était passée, c'était rien produit. Un jour passe, ne se produit rien. Une deuxième nuit passe, ne se produit rien. Un deuxième jour, il ne se produit rien. Et à la fin, Butler est lassé, il dit je me suis trompé. Ou... Il demande à sa femme de lui préparer une assiette de soupe. Et il raconte, vous savez, comment en esprit, alors qu'il allait porter la soupe à sa bouche avec la cuillère, il a vu Satan avec un visage réjoui, un sourire jusqu'aux oreilles, qui était content de voir que, quelque sorte, il sortait du plan de Dieu. Alors il a déposé la cuillère et il est retourné dans l'église attendre Dieu. Et puis, encore plusieurs heures ont passé, peut-être même plusieurs jours, je n'ai plus en mémoire exactement. Et puis au bout d'un temps long, eh bien le Seigneur est venu vers lui. Et il a dit, pour me dire cinq mots qui ont bouleversé ma vie. Cinq paroles. Tout ce temps. L'homme, et l'homme moderne plus qu'aucun autre, est pressé. Il faut que ça se fasse vite. L'homme moderne est incapable de persévérer, est incapable d'attendre. Et je crois qu'un des gros problèmes des hommes et des femmes de ce temps par rapport au don du Saint-Esprit, c'est cette incapacité d'attendre. Et de persévérer dans l'attente, de chercher l'Éternel. Et cette attente, ce n'est pas simplement une attente passive, nous disions tout à l'heure, c'est une recherche. Chercher l'Éternel, c'est toute une attitude intérieure, une attitude de détermination, une attitude de foi, une attitude de prière. Finalement, on retrouve tout ça, ces trois éléments. Et il est certain que Jésus dit d'une manière très claire, celui qui cherche trouve. Ah, encore une fois, on ne trouve pas toujours ce qu'on avait souhaité. Certains diront, ah, Seigneur, moi j'aurais tellement envie d'avoir le don de prophétie. Et puis ce sera un autre don qu'il recevra. Un autre dit, moi j'aurais tellement envie de recevoir le don de guérison, puis ce sera autre chose. Peu importe, mais il recevra quelque chose. Celui qui cherche trouvera. Aspirez au don spirituel. Et particulièrement, dit l'apôtre, à celui de prophétie. Alors, Donald G. aussi soulignait un autre point très important. Il soulignait le danger des dons sans amour, des dons spirituels sans amour. Et il prenait notamment celui de la connaissance, le don de connaissance. Il dit, si vous avez le don d'une parole de connaissance et que vous n'avez pas l'amour, vous pouvez faire un dégât considérable. Par exemple, un don de connaissance qui révèle, je dis n'importe quoi, hein, qui révèle par exemple le péché dans le cœur d'un frère, si vous le dites durement, sans amour, vous pouvez faire un tort considérable. Et là aussi, une expérience de Butler nous montre, je la citais à quelques-uns et je me souviens il y a quelque temps de ça, comment un jour Butler, ah c'était aux amis qui étaient venus, pour tiens, dans l'école biblique était venu un prédicateur qui faisait une tournée, qui, vous savez l'Amérique est grande, hein. Alors bon... Donc il venait de très loin. Et ce prédicateur-là était un ancien catholique, un ancien prêtre. Il avait été élevé dans un monastère. Et puis là, il s'était converti. Il avait toute une histoire absolument extraordinaire à raconter. Et tous les gens étaient là, bouleversés par ce qu'ils entendaient. Sauf Butler, qui était de plus en plus mal à l'aise. Tellement mal à l'aise qu'à un moment, il est sorti. Et puis... s'est mis à faire quelques laissant-pas là dans le couloir devant la salle de culte, salle de réunion. Et un des anciens a cru vraiment qu'il avait un malaise physique. Il est venu vers lui, il dit, frère Voltaire, ça va pas. Il dit, non, laissez-moi, laissez-moi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut vraiment, vous n'avez pas l'air. Non, il dit, voilà ce qui se passe. Il dit, j'ai réalisé pendant la réunion que le Seigneur voulait que je me lève. Je pointe mon doigt à ce prédicateur, je dis qu'il était un menteur. Ça, c'est une parole de connaissance. Alors, l'ancien lui dit, mais il faut faire, Seigneur, vous allez... Je ne peux pas faire ça, il dit, je ne peux pas faire ça devant tout le monde. Si je me trompe, je ruine le ministère de cet homme. Je ne connais pas, peut-être que... C'était terrible pour lui, un débat intérieur terrible. Puis la pression d'esprit de Dieu qui s'est fait, c'est un imposteur, cet homme, c'est un imposteur, c'est un menteur. Et puis, comme il était vraiment troublé, tout ça, un autre que lui, il aurait pu faire ça, et puis se lever, et puis, avec une voix dure, etc., lui, il n'aurait pas voulu faire. Et puis donc, l'Esprit du Seigneur, au bout d'un temps, l'a laissé, parce qu'encore une fois, l'Esprit du Seigneur est un gentleman, le Seigneur ne contraint pas. Et 2 ou 3 jours après, ce bonhomme-là, qui continuait sa mission, faisait un loger chez une des sœurs, là, qui l'hébergeait, qui avait 2 fils, c'était une veuve. Et un beau matin, ces 2 fils disent à leur mère, aujourd'hui on a envie d'aller à la pêche, on va aller là-bas au bord de la mer, on va prendre notre pique-nique, et puis nos cannes à pêche, et puis on reviendra le soir. Et le soir, ils reviennent, tout bouleversé. Ils disent, maman, tu sais ce qu'on a vu là-bas sur la plage? Non. Le prédicateur, là, est en train de rigoler avec 2 prostituées sur la plage. Il est en train de se moquer de lui et l'appeler Saint-Jean. Il est en train de bien rigoler, de leur expliquer comment il montait partout où il passait pour avoir de l'argent. Il ramassait de l'argent, qu'il n'a jamais été prêtre, qu'il n'a jamais été dans un orphelinat catholique, qu'il ne s'est jamais converti, etc. C'était un imposteur. Voltaire avait eu la parole de connaissance. Mais on comprend son scrupule. Il aurait pu faire, mais par respect, par amour, mais il n'a pas voulu faire d'une manière qui puisse ruiner ce frère, etc. Mais après, il a pu confirmer, il a dit, ben oui, mais ça c'est vrai, j'avais eu cette pensée prophétique, etc. Cette révélation-là m'avait été donnée de la part du Seigneur. La nécessité d'avoir les dons dans l'amour, sinon on peut faire un tort considérable. Je vais vous montrer la voie excellente. La voie excellente pour recevoir les dons spirituels et la voie excellente pour manifester les dons spirituels, c'est l'amour. Alors, comment viennent les dons spirituels? Eh bien, les dons spirituels, comme nous l'avons vu, sont spirituels, c'est-à-dire viennent dans un souffle, dans le souffle de Dieu. Alors évidemment, ce n'est pas un souffle d'air, bien que ce soit le mot que la Bible emploie, tant en hébreu qu'en grec. Ce n'est pas la ruach en hébreu, pneuma en grec, ça veut dire la même chose, c'est le vent. Hein. Mais si vous voulez, c'est une intuition spirituelle, une intuition intérieure qui est extérieure à nous. Qui se manifeste, bien sûr, en général, le don spirituel, type celui qu'on emploie toujours, n'est-ce pas? C'est le don de prophétie. D'ailleurs, Paul le fait aussi, parce que c'est le plus courant. Mais pour les autres dons, il en va de même. Le don de guérison, par exemple, c'est typique. Et William Branham, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, explique bien ça dans ses livres. Il dit, il y avait quelques fois, on venait me demander de prier pour tel malade. Ben, il dit, je priais, bien sûr. Mais je savais que cette personne ne serait pas guérie. Parce que je n'avais pas d'inspiration du Seigneur. Et il y avait même des moments où il refusait de prier pour certains malades, disant non, je ne peux pas prier pour vous, parce qu'il ne se passera rien. Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il se plaçait devant Dieu, jusqu'à ce qu'il ressente l'inspiration de Dieu. Je me souviens d'un autre cas, il raconte, tant que je me souviens d'ailleurs, c'était la sœur de la petite fille qui était tout à l'heure, là, j'ai parlé. Je crois qu'elles étaient 2. Il y en avait une qui était morte, donc elle a été ressuscitée instantanément. Et la deuxième était grièvement blessée, était à l'hôpital et il n'a pas prié pour elle. Et la mère, donc, est venue le voir, dit, vous avez ressuscité ma petite fille tout à l'heure, vous ne pouvez pas prier pour l'autre? Il dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai rien reçu de Dieu. J'ai rien reçu de Dieu à son sujet. Et il ne se passera rien. Alors il dit, je vais rester dans la chambre d'hôtel et puis je vais voir ce que le Seigneur va me dire. Et là, il s'est placé devant Dieu, il a cherché Dieu. Et un certain nombre d'heures ont passé. Et puis, soudain, qu'il était là, dans sa chambre d'hôtel, il y avait un vase de fleurs sur la table, avec quelques fleurs, dont une fleur qui était fanée, là, qui était un petit Tu peux baisser la tête, là, comme ça. Puis brusquement, alors qu'il était en train, là, comme ça, perdu dans ses pensées, regarder machinalement ce vase de fleurs, puis là, il a vu cette fleur qui était complètement desséchée, il l'a vu se relever. Ça l'a intrigué. Il a compris. Il a décroché le téléphone, il dit « Madame, je vais à l'hôpital, votre petite fille va être guérie. » Il est arrivé, il a pris la petite fille, instantanément, elle a été guérie. Il avait reçu l'inspiration de Dieu. Il avait reçu la vision de Dieu qu'il y avait quelque chose qui se passait dans les lieux célestes. Voyez-vous ? Alors ça, c'est ça, l'inspiration de Dieu. Alors c'est une écoute intérieure, c'est une écoute profonde. Et cette écoute, elle implique le calme. C'est pour ça que quand on parle d'ordre et de bienséance, hein, c'est pas dans le tumulte, dans le bruit. C'est rare d'ailleurs, vous savez, que dans les rassemblements bruyants, il y ait des dons du Saint-Esprit, parce que non seulement le calme extérieur, mais je dirais le calme intérieur. Et vous connaissez le cas de la parole de Dieu avec le prophète Élisée, on en a déjà parlé. Au moment de la bataille des rois en Transjordanie contre Moab, contre Mécha, le roi de Moab, qui s'était aventuré dans cette affaire sans avoir consulté l'Éternel. Et puis quand ça allait mal, ils ont demandé au prophète Élisée de venir leur donner une parole de Dieu pour que se tirer un peu d'affaire. Et Élisée était tellement en colère de voir la légèreté avec laquelle il s'était aventuré là-dedans. Il était tellement énervé intérieurement qu'il était incapable d'écouter la voix de Dieu. Et voyez-vous, ça aussi, il y a des occupations, des sollicitations, des soucis, des distractions, toutes sortes de choses qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Et c'est quand il s'est fait amener un joueur de harpe, d'où justement l'importance de la musique. Pourquoi chantons-nous dans nos réunions ? Ce n'est pas pour obéir à une liturgie ni à une coutume, mais c'est pour disposer nos cœurs à entendre Dieu, la parole de Dieu. Tant dans la parole de Dieu qui est prêchée que ce que le Seigneur peut mettre dans nos cœurs par son esprit. Et à ce moment-là, la parole du Seigneur était venue dans son cœur, quand son esprit avait été calmé. Vous savez ce qui s'est passé aussi pour Saül, quand David jouait l'harpe devant lui. Le mauvais esprit, l'esprit de fébrilité, d'énervement, de violence qui l'animait, l'abandonnait. Alors, disposer son cœur, c'est une chose très, très importante. Et écouter la voix de Dieu, la voix intérieure qui vient comme ça, comme un bouillonnement, je dirais, vous savez, comme quand on voit, par exemple, un puits dans le désert. Oui, soudain, c'est pas un peu de sable qui bouillonne là comme ça, et puis quelques gouttes d'eau qui sourdent, et on peut passer à côté sans s'en rendre compte. Et puis si on creuse, n'est-ce pas, si on agrandit ce petit trou, eh bien l'eau jaillit, puis ça devient soudain une source, comme dit Jésus, qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et nombreux sont les enfants de Dieu qui certainement reçoivent des choses en réponse à leurs prières, mais ils ne font pas attention. Et on entend parfois, par exemple, des prières, des gens qui prient. Et on peut dire, eh bien, ce frère-là, il aurait pu prophétiser. Plutôt que de prier, il aurait pu prophétiser. Ça voit, il n'a pas fait attention, ce frère-là, ou cette sœur, que, quelque sorte, qu'il y avait là une source qui commençait à jaillir. Ou bien quelqu'un va dire, ah, mais tiens, voilà, moi, je pense que les choses pourraient être comme ci, comme ça, n'est-ce pas ? Je ressens quelque chose, puis explique. Eh oui, mais tu aurais pu prophétiser, tu aurais pu dire ça par prophétie. Si tu avais été un peu plus attentif, si tu avais eu une écoute plus profonde de la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est en toi. Ça peut être la même chose dans le domaine de la guérison, ça peut être la même chose dans un autre domaine, parmi ces 9 dons qui sont évoqués dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, c'est le même problème. Mais encore faut-il être justement attentif à ce que le Seigneur ici veut manifester, ce que le Seigneur veut donner. Et puis, tous les grands hommes de Dieu soulignent ceci, notamment Butler, c'est que, eh bien, cette marche-là avec le Seigneur, ça implique une vie de consécration, de soumission. J'ai cité tout à l'heure cet exemple où le Seigneur lui dit, eh bien, abandonne tout ce que tu es en train de faire et puis attends-moi jusqu'à ce que je vienne. Ou Martinus Bière, en train de travailler dans son champ, le Seigneur lui dit, abandonne tout ce que tu es en train de faire, va-t'en à la gare et prends le premier train pour n'importe où. Je te dirai ce que tu auras à faire après. Et vous savez, cette rencontre extraordinaire avec ce jeune homme qui allait se suicider. Puis, Butler peut l'amener au Seigneur. Alors évidemment, si Martinus Bière avait dit, Seigneur, ouais, mais tu vois, moi, je suis en train de faire mon champ, là, et il faut que je rentre mon grain avant soir, parce que sinon, s'il y a une averse là-dessus, ça va être perdu. Alors, j'irai demain, Seigneur. Ben, le lendemain, le train était parti, puis le gars s'était suicidé. Ça implique cette écoute de Dieu, cette soumission, cette consécration, autrement dit, au Seigneur. Et Butler soulignait ça, c'est une discipline extrêmement, extrêmement forte. Et ça, beaucoup de gens désirent les dons spirituels, beaucoup de gens désirent la vie de l'esprit, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. C'est ça la question. Or, il est certain qu'à notre époque, plus qu'à aucune autre, il est absolument indispensable de retrouver ces anciens sentiers-là. Il est absolument indispensable de recreuser ces puits anciens, ces puits d'Abraham, comme l'avait fait Isaac, vous savez, dans le livre de la Genèse, je crois que c'est au chapitre 19, quand il avait... Non, c'est après, pardon, peu importe, je ne sais plus le chapitre en tête, 26, oui. Donc, recreuser les puits d'Abraham, ben, c'est ça. Hein. Rechercher, aspirer, persévérer dans l'attente, et puis... Donc, écouter, être prêt à écouter la voix de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très important, c'est indispensable, je dirais, d'abandonner, de laisser de côté parfois des choses qui sont inutiles, qui sont vaines, des préoccupations que l'ennemi pourrait placer devant nous et nous troubler par une foule de choses. L'ennemi s'ingénie. Il est passé maître dans cet art-là, de placer des pots de banane sur notre route dans ce domaine-là. Je ne sais pas, vous avez sûrement fait cette expérience comme moi-même, n'est-ce pas? Très souvent, quand on dit, tiens, maintenant, je vais mettre un temps à part là pour chercher Dieu, je sens vraiment que... Eh bien, c'est à ce moment-là que le téléphone sonne, c'est à ce moment-là qu'on sonne à la porte, c'est à ce moment-là que le gamin crie, c'est à ce moment-là que... Bon, qu'on est dérangé de mille manières. Satan s'ingénie à faire ces choses-là. Eh bien, à nous de persévérer, justement, de dire, bon, ben, tant pis, on répond au téléphone et on repart, on redémarre à zéro, hein, dans la persévérance, où on se dit, maintenant j'ai fini, j'ai été dérangé, bon, on verra une autre fois. Puis la fois suivante, c'est autre chose. Alors, ça, ce sont les deux éléments importants de notre marche avec Dieu. Bien sûr, la première, c'est de garder les commandements du Seigneur, c'est la chose essentielle, hein. La marche dans la sanctification, dans la droiture. Et puis la deuxième, c'est rechercher le Seigneur. Hein. Chercher le Seigneur, c'est une chose essentielle. Et il n'y a pas de vie charismatique, il n'y a pas de don du Saint-Esprit sans cette recherche persévérante de la face de Dieu. Voilà en gros ce que je veux dire ce soir.